Et l'invité d'Alpe 1 et vous aujourd'hui, c'est Barcella. Bonjour.
Yes, bonjour.
Est-ce qu'il y a encore du monde qui vous appelle Mathieu aujourd'hui?
Ouais, dans le cercle privé. Bah oui, c'est mon prénom, mais c'est vrai que de Barcella, on a souvent tiré le petit surnom de Babar depuis maintenant plus de 15 ans. Donc tous mes potes m'appellent Babar, mais dans l'absolu, Barcella, ça me va. Mathieu aussi, je me reconnais dans les trois.
J'ai vu dans les surnoms qu'il y avait Babar et Babs, mais comment on passe de Mathieu à Barcella? Vous nous expliquez ça?
Ouais, Barcella, c'est le nom de jeune fille de ma maman, en fait. C'est les origines italiennes. J'ai choisi ce nom-là il y a une quinzaine d'années maintenant. Ça signifie petite barque en italien. Puis j'aimais bien l'idée d'une embarcation modeste chargée de faire voyager les gens en musique. Et quand il a fallu trouver un nom de scène pour mon premier concert, on m'a dit, en fait, tu t'appelles comment? Je suis mince, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et je me suis dit, Barcella, manifestement, c'est un truc qui me colle bien.
Bon, ça doit être pour votre maman que ça a été le plus bizarre, finalement. Elle doit vous appeler Mathieu toujours, finalement.
Oui, c'est ça, exactement.
Bon. Comment est-ce qu'on passe de l'IUFM, d'un garçon qui était plutôt destiné à travailler les lettres, on va dire, avec les élèves, à aller travailler pour des chansons?
Ça s'est fait vachement spontanément, déjà dans la mesure où j'ai raté le CAPES 3 années de suite.
ça vous disait pas, en fait, c'était subliminal, en fait, vous vouliez pas...
Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'il y avait quelque chose en moi qui désirait pas profondément être prof pendant 42 ans de carrière, quoi. Et de toute façon, j'étais dans l'enseignement parce que mes parents y étaient, et puis parce que j'avais envie aussi d'avoir le temps de faire de la musique. Et quand j'ai commencé à vivre de la musique et à faire pas mal de concerts, finalement, j'ai quitté l'enseignement pour me consacrer vraiment à ça. Mais bon, je garde un pied dans les écoles, je continue à faire des ateliers chansons assez souvent avec les petits, les collégiens, les lycéens, ça m'arrive encore.
J'ai vu que vous aviez participé d'ailleurs à la promotion du prix Georges Moustaki à la Sorbonne à Paris. Pour vous, ça reste important de garder ce pied dans cette réalité, on va dire, presque scolaire?
Ouais, mais je pense qu'il y a, en fait, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent dans les envies futures à l'école. Je pense que si on peut donner le goût des mots et de la langue française et de la chanson dès le plus jeune âge, finalement, on oriente les jeunes vers des carrières plus artistiques. Et c'est tout ce que je souhaite à celles et ceux qui nous écoutent, c'est de découvrir l'artiste qui sommeille en eux, s'ils l'ont pas encore trouvé, parce qu'on est tous artistes. C'est vrai que la vie change à partir du moment où on commence à créer des choses soi-même. Il y a quelque chose d'assez valorisant et en même temps très introspectif qui est chouette là-dedans. Donc, moi, je me rappelle bien de moi, collégien, j'étais assez perdu et quand j'ai commencé à rencontrer la guitare et puis à avoir mes premiers groupes, je sais pas, il y avait comme une forme de révélation, comme si j'étais fait pour ça, quoi, en fait.
Vous avez sorti en mars dernier votre quatrième album qui s'appelle Soleil. Vous avez beaucoup, je vais y arriver, collaboré avec de nombreux artistes. Vous avez signé notamment un des titres des Frères de la Vega qui a été l'un de leurs plus gros succès, Le Chant des Sirènes. Qu'est-ce que vous préférez écrire pour vous ou pour les autres?
Bah, je pense que j'ai une facilité à écrire pour moi. C'est évident parce que je parle tout de suite de ce qui m'a traversé. Après, il y a souvent des demandes comme ça, effectivement. Au bout de maintenant 10 ans de scène, il y a des gens qui nous appellent parfois pour fabriquer des chansons. C'est souvent les mêmes qu'on appelle d'ailleurs. Ils appellent, soit ils m'appellent moi, soit ils appellent Tété, soit Ben Mazuet. Mais on se retrouve quasiment souvent tous les trois à écrire à peu près sur les mêmes disques. Et du coup, moi j'aime les deux. Après j'ai une spontanéité à écrire pour moi parce que je pars de mon vécu. Et en même temps, c'est super intéressant d'écrire pour d'autres personnes, notamment parfois pour les filles. J'avais écrit pour Luce aussi. C'était intéressant de se mettre à la place d'une sensibilité plus féminine. C'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve qu'il y a, on vient de perdre Charles Aznavour, qui était vraiment justement dans l'interprétation quelqu'un qui arrivait à prendre n'importe quel rôle. J'habite seul avec maman dans un travail appartement. Tout ça, il arrivait à endosser la peau de quelqu'un d'autre dans l'interprétation et dans l'écriture aussi. Et je trouve ça fantastique. Enfin, c'est super intéressant de se poser ce type de questions-là.
On a l'impression que vous êtes fait pour travailler en équipe, pour partager avec les autres. Vous avez fait des premières parties de chanteurs français renommés, Cabrel, Dutronc, etc. Vous travaillez en collaboration, vous écrivez pour d'autres artistes. Vous avez créé le festival Charabia, donc à Reims, dans votre ville d'origine, un festival qui est dédié à la chanson française. Vous avez besoin de ce partage?
C'est un besoin, mais je pense que ça vient au départ d'une solitude que je vis pas forcément toujours très bien. C'est-à-dire que je crois que je fais partie de celles et ceux qui ont besoin de s'entourer pour se sentir vivre. Pourtant, je vais marcher souvent seul en montagne. J'arrive à vivre la solitude quand je la choisis, on va dire. Quand je choisis de m'isoler, c'est super intéressant, mais quand je la subis un peu, je la trouve super indélicate. Donc, je pense que la vie commence vraiment quand on travaille avec les autres et aussi pour les autres. On est rarement autant heureux que quand on réussit réellement à donner de soi pour les autres sans attendre un retour. On entend ça depuis qu'on est né, mais en réalité, quand on le ressent, il y a quelque chose d'assez chouette là-dedans.
Et puisque vous parlez de retour, est-ce que tous les prix que vous avez remportés, le prix Barbara, championnat de France de poésie, j'ai vu le prix Jacques Brel, etc., ce sont des récompenses qui sont des étapes qui expriment votre talent, justement. Vous le ressentez comme ça?
Ouais, ça me fait plaisir que vous rappeliez ça parce que moi je l'avais oublié en fait. Et c'est vrai que sur ces 10 dernières années, le parcours a été jalonné de parfois quelques succès, ce qui est cool quoi. Parce qu'il y a aussi plein de moments où quand on écrit, on est dans le doute, on a le sentiment que ça avance pas assez vite, que ça marchera pas, etc. Et c'est vrai que quand vous me remettez mon CV devant les yeux, je me dis bah c'est pas si mal en fait. Mais est-ce que c'est valorisant, c'est un coup de pouce? Ça vient souvent couronner une période de travail. Après, je pense que ça fait plus plaisir, très honnêtement. C'est le genre de trucs qui font super plaisir à ma mère ou à mes parents qui se disent « Tiens, mon fils a fait quelque chose. »
Il a raté l'IUFM, mais il a eu le prix Barbara du ministère de la Culture, c'est ça?
Ouais, moi, ça me touche, mais j'ai aussi conscience que quand on reçoit un prix, ça va avec un contexte. Il y a un truc, tiens, c'est le mec du moment, etc. Et puis, 2 ans après, on n'est plus forcément au même endroit. Donc, je vais revenir sur Aznavour parce que ça me parle vu qu'il vient de partir. C'est vraiment quelqu'un qui a traversé sa vie avec plein de choses indélicates. Au départ, personne ne lui prédisait la carrière qu'il a faite. Et c'est vachement intéressant de se dire que quand on y croit à ce point, finalement, on arrive à traverser le cœur des gens sur une telle longévité. Donc, je pense qu'il faut continuer à croire en ce qu'on fait et à aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on fera jamais rien dans la longueur.
Ce qui est assez étonnant dans votre carrière, c'est que finalement, on se dit, vous avez fait votre petit bout de chemin en suivant les choses que vous aimiez, travailler autour des textes de la chanson française avec ce que vous avez écrit pour vous, pour les autres, avec ce que vous parrainez, les prix auxquels vous participez, etc. Finalement, vous avez fait ce que vous aimiez avec le public qui vous a suivi, sans forcément être diffusé sur les radios, etc., mais avec toujours cette reconnaissance quand même, notamment, comme je le disais, au travers des prix qui ont félicité, on va dire, votre parcours.
Il y a ça, mais en même temps, la plus belle récompense, c'est de continuer à remplir assez souvent les salles. Alors, c'est inégal. C'est vrai qu'il y a des fois, on arrive et on peut avoir 200 personnes alors qu'on en attendait 400. Mais dans l'absolu, c'est vrai qu'où qu'on aille, en général, on est 300 ou 400. Mais je m'inscris dans la lignée de plein de groupes que j'adore, avec lesquels je partage énormément de festivals. Mais des groupes qui se sont faits sur la scène. Je pense aux Ocre de Barkback, je pense au Hurlement de Léo.
Pareil, oui. Ce sont des groupes qui ne sont pas diffusés, ce qu'on appelle pas des groupes commerciaux, hein, pas diffusés en radio, et qui, quand ils passent dans un festival, font salle comble à chaque
ouais,
fois.
C'est
le cas, notamment, puisque ce vendredi soir, vous allez être à Digne dans le cadre de votre tournée et vous jouez à guichet fermé, ce qui arrive très souvent dans vos tournées. Et puis après, alors j'ai regardé vos dates de tournée hein, depuis ces derniers mois et dans les semaines à venir. Vous passez par des salles et des lieux très très différents, certaines fois atypiques. Et puis vous partez au Canada pendant quelques semaines.
Ouais, c'est ça. En fait, on a une tournée qui... en fait, on n'est pas en tournée, on tourne, nous, depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'une tournée, normalement, ça s'arrête.
C'est ça. Normalement, on tourne un an et demi, on s'arrête un an, puis on recommence.
Arrêté. On plonge d'un spectacle à l'autre. Et, en général, on prend une pause en janvier, mais c'est tout. Mais dans l'absolu, je pense que c'est la richesse de cette trajectoire-là. Puis c'est ce qui fait que l'inspiration continue à venir, finalement. C'est de pouvoir voyager et de rencontrer des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est là que c'est intéressant, c'est d'aller vers celles et ceux qui ont des différences à partager.
Une question, puisque vous parlez de voyager, je voudrais savoir où a été tourné ce très joli clip qui vient de sortir. Passe-passe, c'est le premier extrait de votre dernier album, donc Soleil, qui est né en mars 2018. Et moi, j'ai trouvé le clip très très beau. Où est-ce qu'il a été tourné?
Ah yes, merci. On l'a tourné à Fuerteventura, c'est une île sur les Canaries en fait.
D'accord.
Il est espagnol, superbe. Enfin vraiment, c'est les volcans qui vont se jeter dans la mer. Et puis, il y avait un espèce d'alignement de planètes pour la création de ce clip. C'est-à-dire qu'on était super en retard.
Avec deux beaux danseurs, avec du beau temps, avec vous avez tout ce qu'il fallait ce jour-là, quoi.
Mais on a trouvé tout le casting en 2 jours, ce qui est assez invraisemblable pour un truc où on part à 10 personnes en avion. Mais en fait, j'ai passé un coup de fil à un pote réalisateur qui a déjà fait un clip pour moi. Et il me fait, j'adore le titre, je suis prêt, etc. Il me fait, faut qu'on trouve une danseuse, un danseur. Il passe un coup de fil au conservatoire. On trouve la fille qu'il fallait. enfin vraiment le truc alignement des planètes. Des fois dans la vie, il y a un truc super qui fait que tout est évident. Et puis il y a des fois on rame pendant longtemps. J'ai encore du mal à l'expliquer. Mais ouais, c'est une belle aventure sur ce clip-là.
Bon, un joli clip et un joli titre. Ça s'appelle Passe-Passe. C'est donc sur l'album qui s'appelle Soleil. On dit de vous que vous êtes poète, slameur, conteur, chanteur. Comment vous vous ressentez, vous ?
Je me ressens comme un grand curieux, je pense. Et puis, c'est plutôt une envie d'explorer le monde qui m'entoure en essayant de ne pas en perdre une miette dans ce qu'il a de beau et dans ce qu'il a d'un peu plus triste aussi parfois. Et je pense que tout ça, ça vient nourrir les chansons. On peut pas se cantonner à faire des chansons rigolotes toute sa vie. Il y a des chansons qui rient, des chansons qui piquent, des chansons qui pleurent, des chansons légères. Et ça, c'est un petit peu le reflet de tout ce qui peut traverser un homme de 37 ans, ce qui est mon âge aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est avant tout les voyages et les rencontres qui nourrissent l'inspiration. Et puis après, c'est une sensibilité qui s'affine sur le temps. Bon, je suis né avec des parents sensibles, une maman prof de lettres qui m'a donné l'amour des mots. Mais dans l'absolu, c'est vraiment une envie de continuer à écrire ce qui me traverse parce que c'est une jolie médecine pour moi.
Merci Barcella d'avoir été avec nous. Vous jouez merci donc à guichet fermé. Ce sera ce vendredi soir 20h30 à Digne. Et puis vous continuez votre tournée sans vous arrêter. Hein. Pourquoi pas repasser dans les Alpes du Sud pour une deuxième date où les auditeurs d'Alpes 1 pourraient aller vous voir. Hein, parce que pour demain, c'est trop tard. C'est même pas la peine d'essayer. Et puis pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, je vous propose d'écouter le titre Passe-Passe, donc extrait de votre dernier album Soleil, tout de suite sur Alpes 1. Merci Barcella.
Merci à vous.